RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus moins que plus la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
le Super Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver sur RMC, sur BFM Sport. En ce lundi, le lundi, l'after vous lance toute votre semaine de foot. Et cette semaine, on va se régaler parce qu'il y a un programme énorme. La liste de Didier Deschamps jeudi prochain. Une finale de Coupe d'Europe avec un club français, l'OM, mercredi. Le nouvel entraîneur du PSG. Voilà quelques-unes des actus qu'on va commenter ensemble jusqu'à minuit avec l'équipe du lundi. Daniel Riolo, salut Daniel.
Salut les amis.
Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Vous êtes d'accord, grosse semaine là quand même. Hein. Là, ouais. Faut être en forme.
En fait, mais moi, tu vois, pour moi, j'ai presque l'impression que le lundi, c'est l'émission qui termine un peu le week-end plutôt. Plutôt que celle qui commence la semaine.
D'accord. Parce que c'est après, t'es en repos, toi. C'est pour ça.
Ouais, puis non, bossé non, dimanche, puis on reçoit lundi, les drôles de dames qui nous parlent du week-end à l'étranger, ouais, non,
c'est vrai,
etc.
C'est vrai, plus
par rapport à ça. Mais c'est ce qui est bien avec le foot, c'est que ça finit jamais finalement. Ouais. Ça finit jamais, ça commence jamais. Quoi.
C'est une belle phrase.
Une continuité.
Ça, c'est beau. Ça, c'est gratuit celle-là ?
Oh, finalement, oui.
Ouais.
Ouais, je m'en vais.
reste quand même jusqu'à minuit. Les drôles de dames seront là effectivement avec leurs habits tranchés. On fera notre tour d'Europe habituel du lundi. Fred Hermel nous parlera de l'Atlético, l'adversaire de Marseille mercredi en finale de l'Europa League. Pierre, tu as d'ailleurs préparé un avis tranché sur cette finale de l'Europa League. Côté marseillais, les questions de l'after seront là évidemment. Alors, des questions comme d'habitude. Je pense que sur les trois quarts, vous allez me bâcher, mais c'est pas un problème.
Non, j'ai trouvé ça mieux que d'habitude, mis à part la dernière, peut-être.
Oui, on verra. On verra tout à l'heure. Vous verrez, vous nous direz ce que vous en pensez sur le hashtag RMC Live, sur Twitter. On vous attend également au 32-16 sur la page Facebook de l'After et sur Direct Studio. Vous prenez votre appli RMC Sport, vous allez sur Discuter en direct et vous pouvez nous envoyer tous vos messages. On y va. Premier avis tranché du soir, celui de Daniel Jingle Riolo.
Qu'est-ce que tu penses des gens qui possèdent un animal de compagnie, genre un chien ou un chat?
Moi?
Ouais.
Ah non, je trouve ça complètement inutile. Tu vois, à part si t'as une grande maison et t'as besoin d'un chien pour la garder, sinon je vois pas l'utilité.
Voilà. Bah non mais alors
on tout a fait jingle alors maintenant.
Ah oui,
visiblement
oui,
tout fait jingle.
Faut être vigilant.
Bon,
alors ça nous permet de vous montrer sur BFM Sport, juste derrière Daniel là, juste au-dessus de ton épaule. Milou, bien sûr, ouais, que tu as reçu. Mmh. Voilà. Bah on est très animaux de compagnie
non,
en ce moment.
C'est pas Milou ça c'est Varane.
Ah oui d'accord. Ah parce que je voyais pas qu'il y avait à côté, c'est pour ça.
On voyait pas Ramos.
Et sachez que j'ai reçu Umtiti.
T'as reçu Umtiti.
J'ai reçu Umtiti.
Un deuxième Milou.
Voilà, donc j'en ai deux. Donc j'ai la charnière. Voilà.
Très bien.
Oui mais non, enfin c'est non, ils sont Milou que quand il y a Tintin. Non?
Bah oui, enfin
donc tout seul, ils restent tout seul, ils sont
pas là, s'il est pas là, ils sont Milou tout seul.
Ah, t'as déjà vu Milou tout seul, toi?
Bah,
c'est bien le problème
bien
pour l'équipe de France.
Oui,
c'est ça le problème.
Mais je sais, j'ai bien compris, sauf qu'ils sont plus Milou, donc ils sont plus rien.
Ils sont là et ils cherchent Tintin. Et Tintin, il est pas là. Il se retourne à côté et il voit qu'il y a un autre Milou.
Oh,
donc, très prochainement, et évidemment, je les bichonne pour la Coupe du Monde, ils seront avec moi tous les soirs, j'aurai ma charnière centrale.
Je me demande, Daniel, si après une saison, on n'est pas en train de tenir quelque chose avec Pierre et les expressions, les comparaisons et tout. La semaine dernière, il nous avait fait le coup de « je tombe à vélo, je remonte », etc. Ça avait été un naufrage.
Ça, je m'étais juste loupé sur l'ordre des pénaltys loupés.
Je sais plus qui en parlait, mais c'est pas grave.
Je vois que le concept de Milou, alors que ça fait un mois
je l'ai compris, le concept de Tintin et Milou quand même. On était même parti sur d'autres doublettes après.
Pierre, c'est pas grave. Mais au top sur l'analyse.
Derrière, le truc, c'est que j'ai enchaîné.
Oui, ouais, à la limite, je préfère dans ce sens-là.
Derrière, le problème, c'est que j'ai enchaîné avec les maisons des trois petits cochons. J'espère que
ça. Ça, je l'ai quand même.
Tu pourrais nous l'expliquer?
La maison de Depaille.
Oui.
Non, mais la maison de briques, pour ceux qui sont intouchables, forcément. Voilà. Non,
mais
ça, je l'ai. Ouais, de paille, t'es un peu entre les deux, et puis la dernière, c'est quoi? Non, de bois, pardon. Voilà. T'es un peu entre les deux, et de paille, t'es.
Bon, alors, tout ça pour introduire l'avis tranché de Daniel. Mais alors, attends, Daniel, accueillons tout de suite pour commenter cet avis, et surtout pour nous dire tout ce qu'on ne sait pas sur le futur entraîneur du PSG, puisque c'est de ça dont il va être question. David Lorto, qui est avec nous un peu plus tôt que prévu, il a dû mettre son réveil, hein. D'habitude, il est là à partir de 23h. Là, on l'a quand même convoqué pour parler de Thomas Tuchel. Salut David.
Allô, Freunde, salut messieurs, salut à tous.
Déjà,
salut
David. Tu me confirmes comment on prononce?
Tuchel.
Comme une tourelle, ça.
Si tu veux dire, en fait, il faut penser à la tourelle. Une tourelle, dans un château, une tourelle.
Mais avec un Jean-Louis Tour. Donc ça fait ah bah oui. avec un oui,
c'est
à la fin.
Très bien. C'est Jean-Louis Tour avec un L, c'est vrai.
Comment et en tout cas, bravo pour la réactivité pour le jingle, puisque c'était dans l'émission d'hier soir.
Si exactement, David. Oui, oui.
Je parle sous le contrôle de Monsieur Lorto.
Voilà, exactement, David.
Je suis content. Écoute bien, hein, David, s'il y a quoi que ce soit, tu me...
Je suis curieux d'entendre ça, bien sûr, David.
Alors, mon avis tranché, eh bien, c'est que Tourelle va y arriver. Et oui. Alors d'abord...
Bon, ça me suffit, tu peux t'arrêter là.
Petite, carrément. Oui.
D'abord, petite présentation sur la personnalité donc de Thomas Tuchel. Très rapidement et de façon un peu basique, on va dire Tuchel est le fils de Jürgen Klopp, parce que Dortmund, parce que Mayence. Méfions-nous de ce raccourci, qui est pour le coup un vrai raccourci, parce que c'est un petit peu plus complexe, et que Tuchel est plus, je dirais, un entraîneur intellectuel dans sa façon d'être, que Klopp, qui est plus,
pragmatique.
Sans que ce soit péjoratif, non, plus brutal dans ses, relations, rapports. Peut-être le vrai maître à penser de Tuchel, plus que Klopp, c'est Ralf Rangnick, qui est le professeur un peu de foot en Allemagne, une sorte de Bielsa, quelque part. L'entraîneur idéal pour Tuchel, ça n'est pas Klopp, c'est Guardiola, avec qui il a beaucoup d'échanges. Les deux se respectent énormément. Il a, c'est vrai, beaucoup de caractère, ce Thomas Tuchel, et il faudra pas, d'ailleurs, on l'a vu à Dortmund et la façon dont ça s'est terminé, et également... On a noté la façon dont plusieurs de ses anciens joueurs ont parlé de lui. Et pas n'importe qui. On parle de mecs comme Mats Hummels ou Subotic, qui étaient importants à Dortmund et qu'on découvre en France, en tout cas maintenant, à Saint-Etienne. Donc je dis là, attention. Attention à quoi? Bah attention, parce qu'on sait tout de lui pour peu qu'on veuille s'informer. Il faudra pas venir dire exactement comme j'avais entendu à l'époque avec Bielsa, oh oui mais le mec est fou, le mec tu lui sers un coca, t'avais commandé avec rondelle de citron, elle est pas dedans, il se lève, il se casse. Enfin, tu le sais. Tu sais où tu mets les pieds.
La rondelle de citron dans le coca, c'est enfin ça faut avertir les mecs au réfectoire au camp des loges.
Non mais c'est un mec qui est
carré.
Peu ouvert aux concessions sur sa façon qu'il a de et qu'il aura envie de travailler. Oui, le Bayern le voulait, mais en même temps, pour reprendre la fameuse théorie que j'avais beaucoup aimée, qu'on avait développée d'Emery, qui disait il faut que le PSG devienne le PSG de Neymar. D'abord, on y sera loin avec Tuchel, mais j'avais dit donc dans ces cas-là, c'est le Liverpool de Klopp, le Real de Florentino Pérez, et j'avais dit et c'est le Bayern. Historiquement, et ça le restera, du Lyonnais et de Rummenigge. Et au Lyonnais, ça a beaucoup freiné. Lui était peut-être moins favorable que d'autres clubs pour que Tuchel vienne, parce que justement, on connaît sa personnalité. Il se rapproche plus, effectivement, je l'ai dit, de Bielsa, de Guardiola, d'un Van Gaal aussi. Donc, on sait les conflits que ça peut occasionner. On sait ce que ça peut donner. Donc, si
ça
on
a l'air
prend...
pas très PSG compatible, tout ça. Bah,
si
on se tourne vers un mec comme ça, et qu'on fait la faute professionnelle de ne pas avoir anticipé tout ce qu'il peut se passer, à savoir qu'il voudra avoir un mot sur le recrutement, il voudra construire son équipe, imposer son style, sa façon de voir. Si jamais l'année prochaine on entend qu'il y a des conflits avec les joueurs, hein, c'est que on est au-delà de la nullité dans les dirigeants. Et je pense, et c'est pour ça que je dis qu'il va y arriver, c'est qu'on ne peut pas atteindre une telle nullité.
Ah.
Parce que je veux bien qu'ils aient des carences dont on parle depuis 5 ans maintenant qu'ils sont au club, un petit peu plus même, mais je pense qu'on ne pourra pas atteindre ce niveau de nullité.
Tu penses qu'ils ont compris ?
D'avoir pris un mec sans savoir exactement comme il fonctionne.
Mais c'est ce qui
je pense qu'on va se servir des leçons du passé.
C'est ce qui s'est passé un peu avec Emery.
C'est pour ça. Vu comme ça s'est passé avec Ancelotti, ensuite avec Blanc, ensuite avec Emery, je veux croire qu'à un moment on tire les leçons du passé.
Ça serait bien.
Que on se serve du travail et d'Emery, de ce qu'il a commencé à préparer, parce que lui, s'il n'a pas réussi à totalement imposer sa personnalité, 50-50, 60-40, 70-30, comme veulent les gens, peu importe, aujourd'hui, il est parti. Avec lui, il faudra que ce soit 100%. J'ai également envie de me référer aux propos de Thiago Silva, qui a dit, on change d'entraîneur, finalement, on n'avance pas. Il faudra peut-être que les joueurs se regardent dans une glace. prise de conscience qui répond aux propos d'Emery sur la progression et les échanges qu'il a eu avec Thiago Silva sur les deux dernières années. Donc si Thiago Silva a progressé de ce point de vue-là, je veux croire que d'autres également. J'ai lu également ce qu'a dit Marco Verratti. Je vois ce qui est en train de se passer dans les interviews des uns des autres, Marquinhos également. Ce qui s'est passé après le match de retour au Camp Nou, on pensait tous que ça allait être l'électrochoc. Ça ne l'a pas été. Genre accident, on avait été tellement fort au match aller, ça n'est qu'un accident ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé contre le Real, c'est peut-être ça, l'électrochoc, puisque le premier, visiblement, n'a pas été analysé comme ça. C'est peut-être le match contre le Real qui l'aura été. Je répète, je peux pas croire qu'on ne sache pas qui on a pris et qu'à un moment, il va pas falloir que tout se mette dans le même sens. C'est pour ça que je crois que Tuchel va réussir. Évidemment, là, vous allez me poser la question, mais réussir quoi? Parce que champion,
réussir à faire avancer le PSG, à faire progresser le PSG dans un domaine. Moi, quand je t'écoute, c'est la bonne place de chacun dans un club.
Voilà.
Et donc, à un moment donné, tu peux progresser, continuer à travailler. Voilà. Est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions un jour? Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose.
Mais en tout cas, tu t'en rapproches parce que tu vas régler certains problèmes qui existent aujourd'hui.
Tu vas régler tous les problèmes dont on parle depuis des années. Tu as complété mon avis tranché. Je t'en remercie. Il adviendra ce qu'il adviendra en Ligue des Champions, parce qu'on le sait bien, tu peux te taper en huitième un monstre, tu peux en huitième un pas fort, tu peux te taper en quart un monstre. Ce sera ce qu'il se passera dans ce match, ce qu'il ne s'est pas passé, notamment au match retour contre le Real.
Ouais.
Donc, je crois effectivement que de ce côté-là,
et en fait, dans ton avis tranché, voilà. ce que tu penses, enfin, en tout cas, ce que tu soulignes, c'est que les dirigeants parisiens ont appris de leurs erreurs passées et qu'ils ne recommencent, enfin.
Parce que je pense qu'au bout d'un moment.
On espère qu'ils ne recommenceront pas cette erreur-là avec.
Parce que
avec
je ne peux pas croire. Parce que déjà, ils ont atteint.
Ils sont suffisamment intelligents à un moment donné pour comprendre.
Non, c'est plutôt parce qu'ils ont atteint tellement de fois. Ils ont tellement flirté.
On peut pas tomber plus bas, quoi.
Voilà, avec l'incompétence trop longtemps dans la gestion, que je veux croire à un moment qu'il y a le coup de talon et qu'il dit, bon, ça y est, j'ai compris quand même des trucs.
Et concernant, j'ai juste une question pour bien comprendre la vie tranchée. Donc, tu nous as parlé de ton analogie, ça doit être donc le PSG de Tuchel. On est d'accord? Si tu le prends, c'est que c'est le
but. On doit lui laisser en tout cas.
Donc, ça ne doit plus être le PSG de Neymar.
Ah, ben, bien sûr.
Ça peut. Donc, comment tu gères ça?
Ah mais ça rentre dans ce que je crois qui a été compris, c'est que il y a des gens qui vont lui expliquer la vie et que s'il va rester cette année et que si au bout d'un an ça n'a pas collé,
Neymar vient pas au PSG pour être le patron de son coach, il vient au PSG pour être le patron des joueurs, pour être le plus fort des joueurs dans le groupe. Moi je pense pas qu'il veuille forcément être le patron.
Tu crois pas qu'il vient pour être plus important que le club, pour être le Messi du PSG?
Surtout quand tu regardes le garçon qui est plutôt j'imagine pas Neymar, tu vois, prendre la parole à tout bout de champ dans un vestiaire. J'imagine pas Neymar rentrer en conflit avec un coach si tout se passe bien, etc. Par contre, j'imagine bien un Neymar s'éclater sur un terrain parce que tout le monde est à sa place et qu'il est plus fort que tout le monde.
D'accord.
Et que là, il est le plus fort des joueurs. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il vit Neymar.
Alors, on va donner la parole à Mathias dans une seconde, supporter du PSG au 32-16. Mais d'abord, David, t'as écouté religieusement la vie tranchée de Daniel qui a commencé par rappeler deux trois choses sur Tuchel. Que toi tu peux nous rajouter?
Oui, alors totalement d'accord avec le diagnostic. Moi je suis pas j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas savoir si Tuchel, conformément au principe que Daniel a rappelé et que je peux effectivement développer, restera la même personne cette saison et éventuellement les saisons suivantes, ou s'il changera. Ça on n'en sait rien, mais c'est un fait que c'est un cérébral, c'est un ascète, c'est un spartiate, c'est un stoïque, c'est un entraîneur qui est plus dans la théorie que dans la pratique, si je veux être grossir un peu le trait. C'est un entraîneur qui va imposer à ses joueurs le premier jour des exercices à l'entraînement qu'ils n'auront jamais vécu jusqu'ici. Par exemple, le premier jour où il arrive à Dortmund, se retrouve avec Subotic, dont Daniel parlait tout à l'heure, qui dit à la fin de l'entraînement, mais qu'est-ce qu'on a fait là aujourd'hui? Est-ce que ça fait vraiment partie du foot? C'est-à-dire qu'il va vous inventer des trucs tous les jours.
Il avait fait quoi?
C'est un théoricien. Par exemple, il demande à ses joueurs, ses défenseurs, de prendre un objet dans les mains pendant l'entraînement pour que ceux-ci ne tirent pas le maillot des attaquants adverses.
De défendre avec un objet dans les mains.
Voilà, okay. Une balle de tennis par exemple.
Ouais,
pour pas que les mains soient occupées à tirer les maillots. Enfin, ça c'est quelque chose d'anecdotique. Il y a des choses évidemment beaucoup plus scientifiques comme tracer un terrain en losange pour que les longs ballons soient travaillés uniquement vers l'avant-centre. Enfin, des choses comme ça très scientifiques et qui sont basées sur des réflexions livresques en l'occurrence. Donc je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic de Daniel. Pierre parlait de...
Excuse-moi, David, de te couper, mais c'est-à-dire les terrains en losange qui t'aident
pour les
longs ballons.
Tu dessines un terrain en losange dans le sens de la longueur, et tu n'as pas le droit de jouer que dans le losange. Ce qui veut dire que ta pointe, ton attaquant de pointe, il est dans un espèce d'entonnoir, d'accord, et donc tu ne peux jouer que dans cet entonnoir.
Serré,
bah, t'as justement plus les côtés, donc ça t'oblige. Après, t'as le jeu inverse, que beaucoup de coachs font aussi, où tu obliges tes joueurs à passer dans des couloirs, à finir par descendre, etc.
Oui, ça, d'accord.
Voilà, c'est un peu l'inverse de ce principe.
Ok.
Pierre parlait tout à l'heure des employés du réfectoire. Je pense qu'un Thomas Tuchel, s'il est fidèle au principe qu'il avait mis en place à Mayence et surtout à Dortmund, est capable de choisir lui-même les personnes qui vont servir la soupe. Parce que il a une réflexion globale avec la nutrition, effectivement, qui est pour lui un principe extrême.
Et Verratti et ses clopes, sans mauvais jeu de mots,
avec Jürgen,
très franchement, ça risque de pas plaire du tout.
Hein. Et alors, quand on réfléchit à l'arbre généalogique, effectivement, il est à mi-chemin en fait entre Klopp et Guardiola. Tuchel, il se réclame de Guardiola, mais il y a quand même beaucoup d'aspects kloppiens dans sa façon de fonctionner.
Et de Rangnick, qu'il avait dirigé en Détroit, je crois, non?
Oui, lorsqu'il était au tout départ, lorsqu'il était entraîneur, effectivement, aussi chez les jeunes. Mais ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que c'est un entraîneur qui demande à ses joueurs une extrême flexibilité cérébrale. Et d'ailleurs, c'est très fatigant pour eux, parce qu'au bout d'une saison, vous êtes rincé. J'imagine pas. J'allais dire une grossièreté, mais des joueurs qui sont un peu simplets. Sous la direction de Tuchel, je pense que ça peut faire des étincelles.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il va demander à ses joueurs une adaptabilité permanente en cours de match aussi, 2, 3, 4 changements tactiques en cours de match, et ça c'est quelque chose que qu'évidemment il doit imposer et pour lequel on doit lui donner un pouvoir sportif.
Il va falloir lui offrir un peu de temps aussi.
Et pour le recrutement, il pense qu'il peut y avoir deux trois Allemands. Bon, évidemment, Weigl devrait arriver.
Oui.
Et il est probable qu'il se tourne vers des mecs qui connaît, quoi.
C'est important que tu mentionnes Weigl, Daniel, parce que c'est un milieu de terrain défensif doué lorsqu'il a le ballon dans les pieds.
Et oui, c'est le mec devant la défense qui manque au PSG.
On s'aperçoit qu'avec les équipes de Tuchel et les systèmes qu'il fait jouer, il a toujours parmi ses priorités un milieu de terrain très dense, très axial, très dense, qui lui permet de dominer ce qu'on appelle l'entrejeu, peut-être de façon un peu, là aussi un peu simpliste, mais c'est l'un de ses principes de jeu aussi. Donc la venue d'un Weigl dans cette logique-là serait tout à fait normal.
Ça dénote par rapport à ce qu'on attendait, parce que tu te dis le PSG, d'abord, on avait dit le retour d'Ancelotti, ils se sont rencardés pour Simeone, Conte, enfin c'était, on s'est dit le PSG va prendre le grand nom pour gérer les stars. Le fait d'aller se diriger, décision qui vient de Doha, vers un jeune entraîneur qui n'a rien gagné et qui peut mettre en avant uniquement des records en Bundesliga qui sont très très intéressants quand on les regarde, mais on va dire un entraîneur qui a pas été un grand joueur, loin de là.
Il va mettre sa rigueur.
Qui fait partie de la caste justement des entraîneurs intello, ça fait toujours des étincelles dans un vestiaire, ce genre d'entraîneur-là.
Comme tu l'as dit, c'est
la nouvelle tendance, ce sont les nouveaux entraîneurs, ça.
Ouais, et puis c'est peut-être intelligent, à un moment donné, de la part des dirigeants, de se tourner vers un autre type d'entraîneur pour dire, voilà, c'est fini, pour marquer vraiment aussi pour eux, une cassure dans le type de management qu'ils vont avoir.
On est d'accord, là, que, donc, on a parlé de la relation avec les dirigeants, mais a priori, au niveau des joueurs, il peut pas y avoir de nouveau ce qui s'est passé avec Emery, c'est-à-dire des cadres forts qui refusent, parce que les cadres, Mota n'est plus là, Thiago Silva a été fragile ces derniers temps.
Le seul problème qui peut être envisagé, c'est la relation avec Neymar.
Oui.
Pour le reste, franchement, à les lire tous,
ça devrait aller.
Thiago Silva, je pense que les mecs ont tous pris conscience que maintenant, voilà, même Verratti, j'ai l'impression.
Quand tu parles tout à l'heure de est-ce que le match retour contre le Real serait pas à un moment donné la prise de conscience?
Moi,
je crois qu'il y a une prise de conscience aussi sur cette fin de saison, l'éviction d'Emery qu'on attendait tous et qui est arrivée.
Oui, mais certains, ça les a fait chier.
Voilà, certaines responsabilités de la part des joueurs, hein, je pense.
Oui, certains se sont dit, bon ben voilà, c'est l'entraîneur paye,
il
se casse.
À un moment donné, on est là depuis 6 ans, les entraîneurs défilent, c'est peut-être aussi un peu à nous de changer.
Donnons la parole à Mathias, supporter du PSG, qui nous rejoint dans l'after. Salut Mathias.
Salut Jean-Louis, salut Daniel, salut Pierre et salut David.
Alors qu'est-ce que tu penses de ce qui a été développé tout à l'heure, depuis tout à l'heure?
Bah, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit pour l'instant, c'est-à-dire que je pense que c'est un pari qui est osé, mais c'est un pari qui peut être payant. Mon premier point c'était Dutch Qualitat, c'est-à-dire que c'est le premier entraîneur allemand dans l'histoire du PSG. Ça peut faire du bien à un club latin d'avoir un chef d'orchestre.
Dans le football français tout court, excepté Gernot Rohr, quoi, qui était franco-allemand.
Beckenbauer.
Mais le peu qu'il est resté, c'est vrai.
Il peut apporter une vraie rigueur en fait à l'institution PSG, que ce soit dans sa personnalité ou même dans la communication au club. Le deuxième point, c'était le management des stars autour de Neymar. Je pense qu'il doit savoir imposer ses idées, et en tout cas c'est ce qui transpire sur le banc des différentes expériences qu'il a pu avoir, que ce soit à Dortmund ou à Mayence. David, tu me dis si je me trompe, mais il a toujours su conserver sa personnalité. Alors après il a jamais été dans un club à dimension mondiale comme le PSG, mais je pense qu'effectivement cette défaite en Ligue des Champions face au Real, effectivement comme l'a dit Daniel, une vraie prise de conscience des joueurs, et qui peut permettre aussi de passer un cap au niveau de la Ligue des Champions. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, est capable de changer de formule en cours de match, qui peut être moins prévisible en Ligue des Champions, qui apporte plus de sérénité sur le banc et qui est capable de faire progresser les joueurs. Et donc, ces trois notions-là peuvent permettre à Paris de passer un cap. Alors, pas passer un cap, faire une demi-finale forcément de Ligue des Champions, mais au moins être capable de gagner face à des gros, comme le Real, comme le Barça, en aller-retour, qui permettra de crédibiliser le projet PSG, rêvons plus grand, quoi. En résumé, finalement, c'est la bonne personne à la bonne place, je pense. Et il va pouvoir offrir plus de rigueur au PSG en offrant de l'adversité, notamment ce qu'a proposé l'OM. Et on voit où est l'OM aujourd'hui, et je pense que c'est un bon choix.
Ok Mathias, écoute, t'es d'accord avec Daniel. Merci d'être venu au 32-16. À bientôt.
Merci beaucoup, Mathias. À bientôt.
David, on se retrouve tout à l'heure à Vitranché sur Hambourg. Hein.
C'est ça. Là c'est le cataclysme, on est obligé d'en parler.
Bah écoute, on te laisse un peu de temps pour t'en remettre, hein. Et puis on se reparle tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure David. 2-3 messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ronan nous demande, rassurez-moi, Tuchel il va laisser la chicha quand même. Faudrait pas trop désorienter le groupe. Non, je pense pas, enfin bon. Pour moi, nous dit J-Unit, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, avoir une mentalité hors du commun sur le terrain et corriger les erreurs du passé, c'est ce qu'on se disait. Et puis,
ouais, c'est ça.
Noir is my color, dira, ça a l'air excitant, tout ce que j'entends sur Tuchel. J'ai hâte de tous les points de vue. Voilà.
Faudra peut-être aussi, quand on parle de tous ces changements, notamment tactiques sur le terrain et l'exigence qu'on va demander aux joueurs, etc., faudra peut-être que nous, médias, et puis aussi que les dirigeants du Paris Saint-Germain lui laissent un peu de temps pour que ça marche. Faudra peut-être être prêt au Paris Saint-Germain à ne pas faire une saison aussi peut-être parfaite en Ligue 1, mais peut-être à perdre quelques matchs parfois, peut-être être un peu plus dans le dur au début pour que ça marche. J'espère qu'il s'y prépare aussi, parce que ça va mettre du temps à s'installer forcément.
À voir, effectivement. Bon, il aura sans doute un peu de temps quand même, Tuchel. Dans une seconde,
J'espère.
Avis tranché de Pierre Ducrot sur la finale de l'Europa League mercredi entre Marseille et l'Atlético. On vous attend, supporters marseillais, 32-16, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Ce soir jusqu'à minuit, les questions de l'after se préparent avec une connotation Coupe du Monde à venir dans quelques secondes. Et puis les drôles de dames, bien sûr, entre 23h et minuit. L'actu du foot espagnol avec notamment l'Atlético, l'Angleterre avec la dernière journée de championnat, l'Italie, les Italiens qui ont leur nouveau sélectionneur, c'est officiel. Et l'Allemagne avec la relégation d'Hambourg, on en parlera avec David Lorto tout à l'heure. Mais on enchaîne, vous savez qu'on est dans une semaine spéciale sur RMC autour de cette finale de l'Europa League, ce sera mercredi. Marseille-Atlético, d'ici là, toutes les infos sur rmcsport.fr, dans l'after également. Et les invités dans Team Duga, demain après-midi, Jacques-Henri Hérault, le président marseillais, sera l'invité de Duga, tout comme le chanteur marseillais Soprano. Donc, soyez là également demain dans Team Duga. Avis tranché de Pierre Ducrot. Duga ou Soprano? Ah oui, Duga pourra peut-être chanter demain. Bon, on le poussera pas trop quand même, mais c'est possible. On y va, jingle Ducrot.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur?
Je t'ai dit ce qu'il nous a sorti l'autre fois, Jonathan?
Non.
Pour parler de l'efficacité d'un recrutement?
Il nous a oublié.
Il nous a dit qu'il y avait un problème d'efficience dans la maximisation des recrues.
Ça va, c'est bien sûr.
Ouais. Un problème dans le recrutement, quoi.
Alors, voilà. Alors Pierre, donc, avis tranché sur l'OM.
Ouais, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide.
Tu as la clé du match pour mercredi.
Bah, il me semble en tout cas que, ouais, que, bah, pour tout dévoiler, que Dimitri Payet et Flo Thauvin peuvent être ou doivent être la clé du match. Ouais, effectivement, on est à peu près tous d'accord pour dire que l'Atlético de Madrid est favori de ce match. Voilà, que même les supporters de l'OM et peut-être même les joueurs eux-mêmes de l'OM savent que l'Atlético a probablement plus de force. Alors quand je dis plus de force, c'est sur différents plans, l'expérience par exemple qui joue pour eux, physiquement même avec voilà, ça cavale dur quand même à l'Atlético, hein, ça va être costaud pour l'OM. Techniquement, voilà, il y a de la justesse, il y a de la vitesse dans le jeu, etc. C'est très très costaud. Mais l'OM a quelque chose de fort cette saison, c'est que pour moi, avec leur état d'esprit sur le plan collectif et leur mental, ils peuvent résister, et je dis bien résister, à peu près à n'importe quelle équipe. Donc je suis pas inquiet sur le fait que l'OM puisse résister un long moment pendant ce match, mais je dis résister parce que pour l'emporter ensuite, il va falloir autre chose, il va falloir ces petites choses en plus, ces petits détails, et pour moi ce petit détail qui n'en est pas un, c'est la prestation de Dimitri Payet et de Flo Thauvin, ouais, qui sont pour moi les deux joueurs qui doivent, ce jour-là, le jour de cette finale, être au-dessus du lot côté marseillais. Voilà, sinon ça passera pas. C'est une formidable occasion pour ces deux-là de mettre fin à, j'allais dire, à une légende, mais c'est pas une légende puisque c'est quand même relativement vrai, ou en tout cas ils l'ont rarement été, c'est-à-dire être très fort dans des gros matchs. Ils en ont déjà fait heureusement, mais trop peu par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Cette finale, ça doit être la leur. Voilà, c'est pas compliqué. On doit avoir un Flo Thauvin qui met le feu sur son côté, qui doit rentrer, qui doit même marquer, parce que c'est souvent quand lui marque que l'OM peut faire la différence. On doit avoir un Dimitri Payet qui est au-dessus du lot et qui bouffe le milieu de terrain. Ce qu'il fait en ce moment, beaucoup en Ligue 1 et en Europa League, mais contre des adversaires qui n'étaient pas du niveau de ceux qui va y avoir en finale du côté de l'Atlético contre Marseille. Et c'est le vrai bon moment pour moi, pour ces deux joueurs-là, pour mettre fin à ce théorème un petit peu, Thauvin et Payet sont pas bons dans les gros matchs.
D'ailleurs, on a sorti les stats, hein, vous les avez aperçus, entre-aperçus.
Moi, je les ai pas vus, mais
bon, on va te faire remettre, Pierre, mais il n'y a pas de problème.
Confiance.
C'est un but pour Thauvin seulement dans les matchs face au PSG, Monaco et Lyon. Aucun pour Payet. Une passe D pour Thauvin, deux pour Payet.
Ouais, voilà. Alors, il y a les chiffres qui effectivement parfois peuvent être parlants. Il y a aussi le contenu des matchs, voilà, et c'est aussi là-dessus qu'on s'appuie. Et quand tu parles de ces matchs-là, effectivement, les deux joueurs n'ont pas été au niveau. Après, ils sont dans une période où moi j'ai envie d'y croire parce qu'ils sont notamment Dimitri Payet, mais même Florian Thauvin qui est en bonne forme. Si c'est pas ce match-là qu'ils réussissent, quand? Voilà, quand, c'est ma question. Quand vont-ils pouvoir en réussir un gros match, je parle, parce qu'ils en ont réussi d'autres en Ligue 1, on est d'accord. Mais quand vont-ils réussir ce gros match si c'est pas là dans cette finale? Et sans ça, pour moi, l'OM n'a aucune chance. Parce que c'est les deux joueurs qui ont le plus de talent côté OM. Voilà, c'est très court comme avis, mais c'est en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la victoire de l'OM passera par là. Voilà, l'OM peut faire un bon match sans eux, c'est-à-dire résister, ouais, mais l'OM pourra pas l'emporter sans eux au-dessus du lot côté Olympien.
Effectivement, Daniel.
Ouais, j'ai même envie de dire, ils peuvent être bons les deux et
que ça suffise pas.
Et que ça suffise pas.
Oui, en plus. En plus, parce qu'il y a de la force en face.
Et effectivement, je pense que eux deux, évidemment, devront être bons. Mais j'ai envie de te dire que de toute façon, toute l'équipe de l'OM devra être.
Mais j'ai moins de doutes sur le reste. Tu vois, j'imagine pas un OM passer à côté de son match au milieu de terrain, au niveau de l'agressivité, de l'engagement, derrière également. J'arrive pas à imaginer un OM qui passe à côté de sa finale à ce niveau-là.
Parce qu'ils
nous l'ont prouvé toute la saison, qu'il y avait un état d'esprit
maintenant bon match et perdre sur... ils sont clairement face à une montagne. Il y a des gens qui ont fait des comparaisons récemment, évidemment ça n'a rien à voir avec 93 où il y a absolument pas un tel écart entre Milan et l'OM, ouais, puisque l'OM à cette époque-là est un client très sérieux de la C1.
Même si Milan était favori, mais il y a pas autant d'écart.
Mais ça n'a rien à voir avec maintenant. En revanche, puisque s'il faut comparer avec des matchs
Barthes
de l'époque,
disait cet après-midi dans Team Duga, la bonne comparaison c'est 2004. L'écart qu'il y avait entre Marseille et Valence à l'époque est peut-être le même qu'aujourd'hui.
Mais celle-là n'est pas à l'avantage de Marseille. Donc je vais en faire une qui peut être à l'avantage de Marseille. C'est plus Étoile Rouge de Belgrade-Marseille, où Marseille est favori et où on pense pas que l'Étoile Rouge peut gagner, même s'il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe de l'Étoile Rouge, ils le montreront ensuite, mais c'est encore une équipe jeune et Marseille est clairement le favori. Ouais. Et l'Étoile Rouge a tenu. dans un style très défensif et a traîné l'OM jusqu'au péno, a bien d'ailleurs contenu l'OM qui s'était pas créé un paquet d'occases, qui avait fait d'ailleurs en sorte que l'OM rate un peu son match, alors qu'à l'époque ils ont une magnifique équipe, on l'a toujours dit, peut-être même plus belle que celle de 93, ils avaient réussi à les faire déjouer et à les traîner jusqu'au péno et à gagner. S'il doit y avoir une comparaison à l'avantage de Marseille, c'est plus celle-là qu'il faut chercher dans les matchs, dans l'idée, parce que c'est derrière cette idée qu'il faut qu'on se réfugie et à laquelle il faut qu'on s'accroche. C'est que sur une finale,
tout est possible.
C'est possible et que c'est ne pas connaître le foot que de penser que tu peux ne pas y arriver. Oui, tu peux y arriver. On va dire que dans 70% des cas, il peut se passer. Toujours en parlant de l'OM, la finale de 99, celle de 2004,
c'est
des choses auxquelles
on
est plus habitué, c'est-à-dire le plus fort objectivement gagne, mais le plus fort sur une finale, même si c'est pas vraiment le profil de l'Atlético de se rater.
C'est pour ça que, après on va pas faire le match avant parce que ce serait stupide, mais c'est pour ça que j'imagine mal. Ni l'Atlético, comme tu viens de le dire, ni Marseille, moi, passer complètement à travers le match.
Oui.
J'imagine un match très accroché. Et où ce qui va faire la différence, effectivement, c'est ensuite les joueurs de talent, quoi, les joueurs, qui d'instinct ont quelque chose en plus.
Oui,
et pour moi,
Pierre,
côté marseillais, c'est Payet et Thauvin. Mais effectivement, t'as raison. Faut que l'OM fasse le match parfait ailleurs. Sinon,
ça marche pas. Que Luis Gustavo soit au niveau du match retour à Salzbourg.
Non, sinon, il est foutu.
Ou franchement,
faut pas que derrière, ça fasse une craquette, un truc comme ça.
Il a
sûr.
Fait peur, alors qu'il a jamais fait peur cette année. Voilà. Il va falloir être en surperformance.
Mais comme ils le sont souvent dans ces domaines-là.
Ça s'appelle
ils arrivent à le faire, ça.
C'est-à-dire.
À être très valeureux, à ne rien lâcher, et du coup, à être un peu dans le rouge, mais à pas passer à ça.
C'est que l'adversaire peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire être très fort dans ce domaine, et dans ce domaine, l'Atlético est très fort. Et en plus, techniquement, s'ils arrivent avec tous leurs hommes, il n'y a pas de blessés au dernier moment et tout, Diego Costa, Griezmann et Diego Godin et toute la clique qu'ils ont,
Oblak
et tout,
ils ont tout en mieux.
Ils sont plus forts à tous les postes, grosso modo. Bon ben voilà. Après, l'exploit, il est autorisé en sport.
Si tu fais le match parfait dans tous les domaines, et qu'en plus t'as ce petit truc qui peut te faire basculer, quoi.
C'est-à-dire le match de l'étoile rouge, j'y reviens. T'es défensif, tu t'accroches.
Oui, mais l'autre domaine, il réussit
et tu l'emmènes.
Mais donc, il est parfait ce match-là.
Donc Daniel, t'es pas forcément d'accord avec Pierre, qui dit que pour qu'il exploite, il faut de bons paillettes Thauvin. Pour toi, si on prend l'exemple de l'étoile rouge, il faut être très solide, il faut quand même que les mecs de ballon le tiennent, les mecs savent le tenir.
Il y avait quand même, ils les ont bien fait chier, quoi. Il y avait de la technique à tous les postes.
Et puis dans ce match-là, tu dis c'est peut-être pas le match. Enfin si, sur un certain aspect, c'est un match parfait déjà. C'est un match parfait que à l'époque de contenir, évidemment. C'est déjà parfait.
Prenons l'avis de Jean-Luc, supporter marseillais, qui nous rejoint au 32-16 sur BFM Sport. Salut Jean-Luc.
Bonsoir.
Salut Jean-Luc.
Alors, j'ai deux choses. Une première, moi ce soir, j'ai téléphoné là-bas parce que j'étais super content d'entendre le supporter de Paris Saint-Germain dire j'aimerais qu'on ait l'esprit de l'OM l'année prochaine. Ça, c'est génial. J'ai adoré parce que ça veut dire que même quand on est supporter de la meilleure équipe de France et qu'on peut apprécier les qualités du club rival.
Ouais, ça n'empêche pas d'être objectif.
C'est génial.
Mais c'est à qui que tu dis ça, Jean-Luc?
Non, au supporter qui a téléphoné tout à l'heure, là.
Le gars qui est très bien, tout à l'heure, qui a fait un très bon... Jean-Luc, c'est quand même bien quand l'intelligence n'est pas en option.
Ah, mais bravo, je le félicite. Ouais, je voulais féliciter ce supporter parce que j'ai trouvé ça super, comme je trouve super Pierre Ducrot, que je connaissais pas comme chroniqueur avant cette année, puisque je crois qu'il avait jamais vu. Moi, je l'avais vu comme joueur. Bon, je le mets pas trop comme joueur parce qu'il était pour Paris Saint-Germain, mais, mais je trouve que comme chroniqueur.
Si tu aurais pu l'écouter, si t'étais, à suivre tous les matchs du PSG sur France Bleu.
En tant que supporter de l'OM, c'était plus dur.
Ça m'étonne un peu.
Surtout que c'était sur France Bleu Paris, donc t'aurais eu plus de mal.
Ouais, je pense que t'aurais eu du mal en fait.
Ou alors, fallait écouter la Première Ligue l'année dernière sur SFR Sport.
Et après, ce que je voulais dire, c'est que Daniel, j'ai l'impression que ce soir, on était à table avec ma mère et mon père. Ce soir, on parlait football, on parlait de la finale. Et ma mère, elle dit, l'OM, on va gagner mercredi et tout. Et le discours, ce que tu viens de dire sur l'étoile rouge de Belgrade, et ce que tu as dit pour le match, on a dit à ma mère la même chose. Bien sûr, elle est moins qualifiée que nous en termes de football. Elle a pas vu tout ce match. Nous, on les a tous vécus, ces matchs. Et c'est exactement ça. Et ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, il y a des finales, il y a des matchs qu'on aurait dû gagner contre l'étoile rouge de Belgrade. On a fait 120 minutes dans leur camp. On n'a pas réussi à marquer. Eux, ils ont quasiment pas eu d'action. et on a quand même perdu en finale. Et contre le Milan AC, il a fallu un Barthez monumental pour qu'on arrive à sortir, parce qu'il faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu un grand Fabien Barthez en 93, il n'y aurait pas eu de victoire.
Après, il y a toute la partie possible dans les 30% de chances que tu as. L'effet de jeu, c'est un corner qui n'existe pas, mais ça te tombe dessus, t'en profites. Bon, voilà.
Je précise que 30% de chance, c'est pas si mal.
C'est quand même pas mal. Ouais.
Combien de fois, Daniel, au poker, il a perdu en ayant 30% de chance?
Bah, ce week-end. Là, sur la finale, franchement, c'est plus, à mes yeux, c'est un 80-20.
Ah oui, d'accord, c'est beaucoup.
T'as une équipe Ligue des Champions qui fait deux finales en 4 ans,
et une équipe qui
réapparaît sur la scène européenne. Évidemment que tout est possible, mais un 80-20, ça laisse 20%. 20%, c'est pas rien.
Alors moi, comme je dis, comme je suis supporter de l'OM, j'y crois à mort, évidemment, puisque je suis supporter. Et si j'étais pas supporter de l'OM et que j'étais simplement un amateur de football normal, eh ben je dirais qu'on a aucune chance. Alors que là. Moi j'y crois. On espère. On est comme des fous. On est tous comme des fous parce que évidemment pour nous cette année c'est extraordinaire. Quand on entend ce matin le président Hérault parler à l'antenne, c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que cette équipe, même si c'est pas génial, mais franchement, qu'est-ce qu'on se régale. Vendredi, on était comme des fous. C'était la finale de Coupe d'Europe pour nous vendredi. Parce que quand les gars à 9 défoncent, ils ont 7 corners. Ils sont là, on sent que les mecs ils s'arrachent. Qu'est-ce que tu veux leur dire, Roger? Tu veux rien leur dire? Les mecs, ils ont fait le maximum. On s'est régalé. On a eu de l'émotion cette année. Franchement, ça fait des années qu'on se régale. Je vais vous dire, moi, on a gagné en 2010 au championnat, On a gagné le championnat. J'étais super content. Le seul match de l'année où j'étais super content, c'est le dernier contre Rennes, quand on gagne 3-1 parce qu'on a un titre. Et le match et la finale, pardon, contre Bordeaux de la Coupe de la Ligue.
Mais le reste de l'année, t'as pas trop d'émotion, quoi.
Non, c'est ennuyé. Alors que cette année, franchement, on s'est régalé. Les mecs, ils se battaient, ils étaient dans un esprit de fou. On s'est éclaté, comme l'année de Bielsa, mais là, c'était encore plus... Il était plus fort, à la rigueur, l'équipe de Bielsa était beaucoup plus forte que la nôtre, que cette année. Mais par contre, cette année, il y a un esprit, il y a un cœur, il y a un truc. Enfin, je sais pas, on est comme des fous. Et rien que pour ça, ça serait bien que l'OM gagne. Moi, je suis supporter, évidemment, ça serait génial. Mais rien que pour dire aux Français, à tout le monde, regardez, quand on se bat, quand on met du cœur, quand on met de la passion, quand on y croit à fond, et ben on peut gagner. Et ça, c'est génial.
Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, sauf que les Espagnols vont te répondre, nous aussi, on peut le dire objectivement, c'est qu'en face, t'as une équipe qui fait exactement la même chose.
De ce côté-là. C'est pas une équipe de danseuses,
Moi, j'aurais préféré jouer Arsenal parce que, au moins.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ils pouvaient exploser, psychologiquement. C'est vrai que ceux-là, on prenait la composition, du coup, on a fait à ma mère, là, on a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient très forts, qu'ils avaient le meilleur gardien du monde, qu'ils avaient des défenseurs centraux qui étaient au top avec Godin, qu'ils avaient des joueurs qui étaient, une partie des joueurs qui étaient peut-être pas les titulaires de l'équipe d'Espagne, mais au moins des premiers remplaçants de l'équipe d'Espagne, qu'ils avaient peut-être un des meilleurs avant-centres du monde avec Diego Costa, qu'ils avaient le meilleur joueur français du moment avec Griezmann. Ma mère, elle a été dégoûtée à la fin, elle a dit, c'est pas la peine d'y aller.
À la fin, elle a pas sorti le dessert.
Et on a dit que les deux remplaçants qui étaient les deux attaquants remplaçants étaient bien meilleurs que nos deux titulaires à nous, Fernando Torres et Gamero. Donc c'est vrai qu'après ça, bon, je suis pas donné obligatoirement envie de regarder le match, mais franchement, si on gagne, le pied qu'on va avoir, c'est énorme, parce que si on gagne, ça va être génial. Et si on perd, c'est pas grave, on aura fait une belle saison. Ce qui m'a rassuré, c'est ce matin, alors j'espère qu'il nous a pas raconté des bêtises, Hérault, mais que si malgré tout on ferait pas la Champions League, on aurait quand même de quoi mettre une belle équipe en place l'année prochaine, de façon à concurrencer Lyon, les Monaco et tout ça. Et puis espérons qu'on nous donne toujours ça et qu'on se régale, quoi, et que c'est bon pour le
football. Et ta mère, elle a pronostiqué quoi, Jean-Luc?
Ah, peu cher. Elle a dit, il faut que l'OM va gagner. Alors nous, en tant que supporters, on dit l'OM va gagner. D'ailleurs, je vais jouer. J'ai dit à ma mère, on va jouer quand même au Paris sportif, on va miser sur l'OM qui est à 5,5, je crois, un truc comme ça. On s'en fout, on va miser quand même parce qu'on est supporter et on veut que ça gagne. Mais franchement, on n'y croit pas, quoi.
Dans ce cas, mise sur Marseille, gagne la compétition. Comme ça, il y a la prolongation, etc. Ouais, et ton pari n'est pas mort s'il y a match nul. Je te dis, petit conseil.
C'est ça, par contre.
Voilà, vas-y, mets plus. Merci en tout cas, Jean-Luc, d'être venu dans la journée.
Merci, les gars. Et encore bravo. Merci pour tout.
Bonne soirée, Jean-Luc.
Merci, salut.
Des messages sur Twitter, sur le hashtag RMC Live. On y va tout de suite. Évidemment, vous avez toute la soirée pour envoyer vos messages. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Faut une équipe solide dans tous les compartiments du jeu. C'est Wilfried qui dit ça. Et puis arrêter de faire le match avant l'heure, nous demande Gouololo. Oui, bah en même temps, on est un peu là pour ça aussi.
Ouais, sinon bah oui, on peut tout arrêter aussi.
Mais arrêter avec l'Atlético, nous dit DZ Espagna. C'est une équipe qui ne sait pas faire le jeu, donc l'OM va pas faire le jeu, ils vont avoir du mal. Et puis Parme 99, c'était beaucoup plus fort que l'Atlético, nous dit-il. Bon.
C'est ça.
C'était très fort, Parme 99.
Mais l'OM 99 était beaucoup plus fort. Rien à voir avec l'OM d'aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup plus fort.
C'est vrai. Bah, il leur manquait du monde sur cette finale.
Ouais. Ça, c'est vrai.
C'est ça le problème aussi.
C'est compliqué de comparer. On s'amusait à faire des comparaisons, mais honnêtement, c'est compliqué en plus quoi, de comparer rien. Déjà, deux équipes, c'est compliqué. Alors, d'en comparer quatre sur deux finales.
Ouais, c'est vrai. On peut dire que le PSG actuel était plus fort que le PSG de Pierre Ducrot.
Oui, ça c'est plus facilement comparable. Ouais.
Bah ça dépend de le. T'as eu des bons PSG aussi, quand même, au tout début de ta carrière.
Ouais, enfin moi le. Oui, ah oui. Quand moi je démarre avec l'ancienne génération, mais c'est déjà plus les années où ils sont champions d'Europe, etc.
Ouais, c'est vrai.
Donc on tourne une petite page quand même.
Très bien. Question de l'after dans une seconde. Restez avec nous, ça va valoir le détour. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, les drôles de dames dans 10 minutes. On commencera par l'Espagne, Fred Hermel, tout ce qu'il faut savoir sur l'Atlético et sur son état de forme à deux jours de la finale de l'Europa League. Juste avant les questions de l'after, petite info qui concerne Caen. Ça y est, ça bouge, Jean-François Fortin est clairement poussé vers la sortie. Pierre Esnet, entrepreneur normand, a été nommé président de l'instance SMC10 qui regroupe donc les 13 actionnaires majoritaires. Donc Jean-François Fortin vers la sortie, sans doute également le cas pour Xavier Gravelaine et Patrice Garande, l'entraîneur. Ah bah oui, tout ça à un match de la fin alors que le club n'est pas maintenu. Bon,
ouais. Voilà. Le club reçoit le PSG qui va peut-être pas vouloir se coller deux défaites de suite sur la
non.
fin.
Oui, en plus.
Celle contre Rennes quand même, ceux qui ont misé des sous dessus en m'écoutant la semaine dernière.
Tu l'avais prédit celle-là ?
Je prends 10%.
Donc tu as ouvert une agence de bookmaker.
De bookmaker.
T'as un truc à faire.
Parfois je donne des conseils.
J'aurais dû te demander qui est favori de la finale.
Ouais, bah, je te l'ai déjà dit tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai, Marc, t'as raison. Ouais, bon, les questions de l'after. Alors la première question. Jean-Luc Reichmann doit-il prendre un club, devenir dirigeant, devenir président de club de foot, ou à minima intégrer la Dream Team RMC? Daniel, qu'en penses-tu?
Moi je ne suis. Alors moi, je... enfin non, tu dis.
Qu'est-ce qu'il a dit du gars là-dessus?
On n'a pas parlé de Jean-Luc Reichmann.
Mais il a
parlé des trophées UNFP en général.
Il a fait un gros coup de gueule sur les trophées UNFP.
Ouais. Ah bah il a trouvé ça grotesque, ridicule.
C'est quand même fou, c'est que chaque année on trouve ça grotesque. On n'est pas foutu d'organiser ça comme il faut. Alors c'est quand même pas sorcier, putain merde.
Alors je rappelle donc juste.
C'est quand même... Non mais c'est dingue les abeilles. Alors déjà un jour, quand est-ce qu'on comprendra?
Pierre, je pensais que vous en aviez parlé hier.
Pierre, ne le prends pas pour toi, évidemment. Ah. Mais quand est-ce qu'on comprendra que demander à des joueurs de noter les autres joueurs, ça ne sert à rien, parce que la plupart ne regardent pas les matchs des autres
et qu'on note sur des statuts. C'est ce qu'on a dit dans Team Dunia sur ce que représentent les joueurs et pas sur ce qu'ils font pendant
en plus,
la saison.
S'il y a des potes, bah on va voter pour le pote. Ça ne sert à rien.
Et je savais pas, mais
c'est comme pour le Ballon d'Or. Faisons voter les journalistes.
Gilbert nous a dit, il y a un taux de vote qui est proche de 50% apparemment.
Mais bien sûr, en plus, il y en a plein qui envoient pas les fiches.
Alors, je te résume,
c'est plus sur des fiches, sur des tablettes, mais les mecs partent de l'entraînement, remplissent pas le
pute pas tablette et se barrent. Et puis, ça soulagera le public, qui, quand il ne sera pas d'accord, saura qui insulter. Ils nous insulteront, nous. Et comme on est habitués, tout se passera bien. Alors, parce que nous on a carapace maintenant.
Où tu pourrais faire, comme d'autres élections, un panel de joueurs, un panel de journalistes, un panel
oui,
de,
comme
de,
le Ballon d'Or,
d'autres entraîneurs.
Alors, je te fais juste
même,
le...
un panel même public.
Un panel public.
Les supporters, on sait, vont noyer le truc et voter que pour leur
excuse-moi, le public, il a choisi Malcolm comme plus beau but. Pour moi, c'était un des pires buts qui était possible. C'est juste une frappe de loin, le but de Malcolm, c'est pas le plus beau but.
Ah, ça c'est pareil, c'est jamais très...
J'ai un doute là d'un coup, mais oui, je crois que c'est ça.
Moi j'aurais mis le but de Fekir.
Bah pour moi Fekir, Lo Celso, son ballon piqué.
Ouais.
Mais ils sont tous beaux
Benjamin
en fait.
Jeannot, sa reprise de volée à Dijon.
Ils sont tous beaux.
Plus beaux que celui de Malcolm. Malcolm c'est une frappe de loin, il y a rien de spécial.
Jeannot, il est bien, mais ce qui est pas un peu chatard.
Est-ce que le dimanche matin tu as déjà fait des frappes de loin comme ça?
Tu me permettras de considérer.
En Allemagne, il y en a 50 des buts comme celui-là.
Tu me permettras de préférer le geste maîtrisé à 100% Fekir, ça l'est.
Lo Celso alors.
Oui, Celso aussi. Fekir aussi. Jeannot, c'est magnifique, mais il y a une...
C'est plus instinctif.
Il est un peu chatard.
Je veux dire, même Kurzawa, c'est plus beau. avec le corner de Neymar et tout. Bon bref. Alors, les coups de gueule de Dugas, puisque t'as demandé, c'est Neymar meilleur joueur, c'est n'importe quoi. Ça aurait dû être Thauvin. Emery meilleur entraîneur alors que les joueurs ont dit ouvertement qu'il l'avait pas suivi et qu'il a pas su appliquer sa méthode.
Bah, c'est pas vrai ça.
Ça a pas de sens.
Non mais ça là-dessus Dugas il se trompe complètement. C'est pas vrai
que Marquinhos a dit une heure avant.
Mais pas tout. C'est Marquinhos l'a pas dit exactement comme ça.
Non, ce qui est vrai.
Il s'est référé au début.
Oui, bah c'est ça. Bah,
au début du mandat, non, en 2 ans, 6 mois sur
Dugas, il a dit ça comme 24. Ça. Il se base pas plutôt sur l'interview de, que Daniel a fait d'Emery, où Emery dit j'ai voulu m'imposer et finalement je suis revenu un peu en arrière.
Marquinhos parlait du début.
Oui, bah il empêche que même si c'était au début, Emery a dit aussi son truc.
Non, mais voilà, je trouve pas scandaleux qu'il préfère que soit Garcia. Moi-même, j'aurais beaucoup hésité entre les deux.
C'est pareil, on en parlait hier.
Moi, j'ai aucun problème.
Comment tu fais pour dire qui est le meilleur entre un entraîneur du PSG ou de l'OM et Lyon et un entraîneur de Dijon, Strasbourg, c'est le même métier.
Bon, c'était ma première question, c'était sur Jean-Luc Reichmann. Vous m'avez même pas répondu.
Il y a tellement de différences, c'est qu'on dans la comparaison de ces entraîneurs-là que c'est compliqué.
Le problème, alors, d'abord, les mecs, ils invitent.
Ils n'attaquent pas la Dream Team.
Ils attaquent des personnalités pour animer l'émission. Bon, les personnalités liées au foot, très franchement.
Non, mais là, dans ce qu'il dit, c'est pas ça.
En plus, excuse-moi.
Vous en
recevez aussi dans Team Dugas, on sait bien, c'est souvent de la Ligue 2 un peu.
Ah, les personnalités, les people
liés au foot.
Ah, ça, il y en a des bons.
Mais Reichmann, c'est pas ça le souci,
part,
Daniel.
À part quand t'invites Malik, qui est un vrai passionné de foot.
Malik Bentala.
Jean-Luc Lehmann adore le foot aussi, tu vois. C'est un peu tout le temps les mêmes, c'est un peu, tu vois, bon.
Hein. Je sais que Jean-Luc Reichmann regarde beaucoup les matchs.
Reichmann, qui moi je pensais était fan de handball.
Non, il regarde beaucoup les matchs. Je sais qu'il est fan du PSG depuis un petit moment.
Donc le mec, il est fan de l'OM en plus.
Non, mais après c'est pas
il est fan de l'OM en mode footix parce que si le PSG joue bien, il aime bien le PSG. Enfin,
Je te dis Daniel, moi ce qui me dérange, c'est même pas le fond des propos, parce que le fond des propos, je sais pas si tu as entendu, c'est qu'en gros, il demande aux joueurs d'avoir du caractère l'année prochaine, quoi. Et finalement, c'est tout ce qu'on dit un petit peu, c'est que je trouve ça super déplacé quand tu te fais inviter à une remise de trophée, de passer ton message personnel, parce qu'il y a toutes les autres équipes qui sont présentes et t'as pas besoin de faire passer ton message à l'équipe que tu supportes. C'est pas ta place, c'est pas ton rôle. Et puis je trouve ça très déplacé de le faire à des joueurs
comme
qui
si je t'invite à bouffer et tu me dis c'est pas bon
sur le moment, quoi.
C'est un peu ça. Moi je milite pour que
ça déplacé en fait.
T'attends de te barrer, tu le dis dans l'escalier.
Je milite pour que Jean-Luc Reichmann vienne faire l'after.
Non mais ça aurait été mieux si je peux finir, enfin en tout cas plus mieux de sa part. D'aller prendre les joueurs après et d'aller leur dire voilà ce que je pense, moi vous manquez de caractère un petit peu, nous on a envie de ça, etc.
Neymar, il aurait dit t'es qui toi?
Mais peu importe, il lui aurait dit ce qu'il pensait. Là ça fait un peu devant tout le monde
évidemment que c'était pas le moment, que ça
c'est ce qui est gênant finalement,
mais le truc c'est toujours pareil, cette cérémonie elle est mal foutue, c'est mal goupillé, les mecs ils sont à table là, mais
bah tu veux faire ça comment après?
Mais c'est dépassé dans la mise en scène, dans la présentation, c'est ringard, ça essaye de copier un peu les Césars, un peu
Après je suis pas sûr qu'ailleurs ce soit mieux.
Mais surtout ceux qui sont là, t'es sûr qu'ils sont récompensés? Tu sais, il y a même pas de certitude.
Et le faux suspense, ça va peut-être être Cavani hier,
avec Ronaldo et
Nico, Nico. Bon, Nico, il était pas dupe, hein, il le savait. Enfin, t'as Ronaldo qui est là, t'as Neymar qui est là, et Cavani il est pas là, il y a un suspense, on va arrêter de prendre des gens pour les
coups. D'accord.
Tu penses que si Jean-Luc Reichmann, il parle à Neymar, Neymar, il dit t'es qui? Il dit attends, et 12 coups de midi, mon gars? Il lui répond comme ça?
Bah, peut-être, je sais pas s'il regarde après.
C'est possible. Bon, en tout cas, non, je parlais de Bruno Solo, je vous invite à retrouver ça sur internet. Tapez Riolo Bruno Solo. On va te retrouver l'extrait, tiens. On va repasser un extrait.
Non, arrête, ça rien,
Bah, tu dis que tu t'en souviens pas, moi, c'est
pas ça.
Mais
parce que maintenant, je m'en souviens. Ah, c'est bon. On va pas repasser les trucs, les vieux trucs, là.
Ouais. T'en es pas très fier.
Mais non, mais il est super sympa, Bruno Solo.
Ah, c'est pour ça, c'est devenu un pote
mais
de...
Mais non, pas du tout.
C'est devenu un pote de poker.
Mais pas du tout. En plus, j'ai jamais joué au poker avec lui.
C'est génial, parce que dans le truc, tu dis, oh, j'en ai marre des potes de poker de Domenech, etc.
Mais je te dis que j'ai jamais joué avec lui, t'es con.
Mais en fait, t'es pas devenu un people du showbiz.
Mais pas
avec
du
le
tout.
Temps.
Mais pas du tout. C'est juste que j'aime pas les vieilles polémiques. C'est bon.
On salue Bruno Solo.
J'aime pas ces moments-là. Voilà. Quand je m'emporte, voilà.
Ah, t'as des petits regrets quand tu t'emportes.
Mais bien sûr.
Bah je sais pas, tu pourrais être fidèle à toi-même. Bien sûr, tu t'emportes pour les bonnes raisons.
Je suis pas forcément fidèle à mes colères, j'aimerais bien être plus mesuré, un peu plus tu vois, un peu plus posé parfois et tout ça.
Oh, c'est ce qui fait ton succès aussi.
Oui, mais bon,
colère. Voilà. Bon bah, j'ai pas eu le temps de faire toutes mes questions.
C'est pas plus mal.
Non mais c'est terrible.
Vas-y,
c'était
quoi ce qu'il y avait,
Non, on a plus le temps là.
Allez, on répond que par oui ou non.
Allez, vas-y. Gustavo absent de la liste du Brésil, est-ce un manque de considération pour la Ligue 1?
Non. Non, il est à un poste où il y a deux, il y a deux monstres.
Oui ou non, on n'a pas le temps.
Non, parce qu'il est à un poste où il y a deux monstres aussi.
Il y a pas de parce que derrière.
Le truc, c'est que la réponse est oui et non. C'est que la Ligue 1 est pas assez fort pour qu'il y soit. Voilà.
Le PSG faut-il le championnat?
T'as Casemiro et...
Le PSG faut-il le championnat?
Non, c'est une absurdité, une bêtise énorme que de dire là.
Moi, j'ai même pas besoin de répondre.
Là, là, je serais capable de m'emporter, de traiter de con.
Non, laisse tomber, on n'a pas le temps, Daniel. Laisse tomber.
Paolo Guerrero, absent, la star du Pérou, est-ce le retour de la chance de Didier Deschamps?
Eh ben, on espère.
Déjà maintenant.
On espère.
Voilà. Et puis pour finir, est-ce qu'il vaut mieux jouer Nice qui joue l'Europe, Amiens qui joue rien, ou Troyes qui joue le maintien?
Question très con.
Ouais, c'est terrible. Bah, vaut mieux jouer à Amiens qui joue rien.
Bien sûr. Pourquoi pas, ouais. Bah voilà, et Amiens qui est en roue libre et complètement relâché peut te faire un meilleur match.
Ah, c'est sûr, quelqu'un dirait ça.
Oui, peut te faire un meilleur match.
Voilà, arrête, voyons. Et la question est bonne.
Qui tu me disais, voilà. Nice ou, je sais plus qui.
Mais arrête, voyons.
On sait jamais. Nice ou Troyes qui joue le maintien.
Eh, voilà. Ben voilà, bah, Troyes peut être plus dangereux, moins dangereux parce qu'ils sont timorés par l'enjeu qu'Amiens qui est complètement libéré.
Franchement, bravo. C'était excellente, ces questions de l'after. On revient avec les drôles de dames, les amis tranchés, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. On vous attend. 32-16. C'est un gros programme encore jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.